et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Il va louper le début. Mais c'est pas une heure pour prendre sa douche.
Et c'est sur l'autre radio.
Tiens, et si on parlait d'hygiène, pas celle du matin pressé, du shampoing qui pique les yeux des enfants ou du dentifrice qui ne mousse pas assez, mais l'hygiène comme idée, comme trace, comme héritage. Et si on parlait aussi des guerres, mais pas celles qu'on apprend par cœur en classe avec les dates et les généraux, non plutôt celles qui laissent des silences dans les familles et des tremblements dans les corps. Aujourd'hui, dans cette émission, on vous propose un voyage en Mayenne, oui oui, ici, en bas de chez vous, parce que l'histoire, la grande, elle commence parfois par une baignoire oubliée, un bateau lavoir ou un vieux plan d'assainissement municipal. Parce que l'histoire, elle a des racines, des éclats, des drames et parfois même un air de fête. Et justement, ce sont des étudiants qui nous invitent à cette fête, une fête sérieuse mais joyeuse, une fête gratuite et généreuse, une fête de l'histoire à leur façon, audacieuse et vivante. Et justement, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Ronan, une voix que vous connaissez bien, Lénie et Julie. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec moi aujourd'hui.
Merci à vous.
Alors aujourd'hui, on va parler d'héritage mayennais, de guerre et d'hygiène, de folie et de généalogie, et surtout de passion, celle de 22 étudiants qui ont décidé que l'histoire, ça devait se partager. Ensuite, on continue avec ce deuxième et dernier reportage consacré à cette étude menée par l'INRS avec le centre hospitalier de Laval. Aujourd'hui, on tend le micro sur le terrain aux soignantes qui ont expérimenté la formation centrée sur l'accompagnement à la mobilité. Nous verrons ce que cela change au quotidien et comment ces gestes s'appliquent sur le terrain. Et pour terminer cette émission, j'allais dire, on garde le meilleur pour la fin, mais comme tout est bon dans cette émission quotidienne, je vais plutôt vous dire que l'on retrouve notre chronique la plus littéraire, je pense en tout cas, celui qui chaque mardi referme l'émission avec une histoire, en tout cas des mots qui tombent juste et résonnent longtemps, et ce sont bien sûr ceux de Donatien. Et puis si je devais garder le meilleur pour la fin, ce serait par le fait de te saluer que maintenant, Maxime, comment est-ce que tu vas ?
Bonjour à tous, ça va super, et toi Margot ?
Eh bien, ça va très très bien, et je vous propose de commencer dès maintenant avec l'entretien du jour, puisqu'on est en bonne compagnie aujourd'hui. On est avec Ronan, Lénie et Julie de l'UCO de Laval. Vous organisez le 30 mars la fête de l'histoire. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter ce qu'est la fête de l'histoire et depuis quand elle existe à l'UCO de Laval, Ronan ?
Donc bonjour à tous. Donc la fête de l'histoire existe à l'UCO Laval depuis 2016. Donc cette année, on organise la 9e édition. Donc édition qui est plutôt centrée sur le thème de la guerre et l'hygiène. Donc sur le territoire mayennais principalement. Et cette fête de l'histoire, c'est un projet pédagogique donc mené par les étudiants de troisième année de licence d'histoire. Donc sous la responsabilité de nos responsables de formation. Et donc c'est une fête qui promeut le territoire mayennais et le valorise.
Alors on a pu le dire en introduction de cette émission, le thème de cette 9e édition, c'est entre guerre et hygiène, deux héritages mayennais. T'as pu nous faire part, Ronan, de ce désir de rattacher cette fête au local. Le choix de l'hygiène est un peu particulier, surprenant. Et en même temps, on se dit intéressant, puisqu'on n'en entend pas parler. Pourquoi ce choix-là ?
Eh bien, en effet, le territoire mayennais est très diversifié sur de nombreux aspects, et notamment sur l'aspect de l'hygiène. Donc, il y a notamment la présence à Laval de deux bateaux lavoirs, qui étaient donc très importants à l'époque donc, pour ce qui est du domaine de l'hygiène. Mais il y a aussi donc les bains douches et aussi, comme tu l'as dit précédemment, le réseau d'assainissement de la ville de Laval et enfin aussi de la canalisation du coup.
Et alors, quels sont les temps forts de la journée du 30 mars, de la fête de l'histoire ? Lénie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être ?
Alors, on va avoir plusieurs temps forts et notamment deux types de conférences, avec d'abord une conférence de l'historien Hervé Guillemin qui travaille au centre de recherche de l'Université du Mans. Il va présenter une conférence avec l'intitulé « La guerre peut-elle rendre fou ?» Histoire d'un débat de société à l'époque de la Grande Guerre. Alors là, c'est une notion qui est super intéressante, qui vient sur des fondamentaux de la psychiatrie qui se construisent à l'époque de la Première Guerre mondiale et dans le traitement des blessés de guerre mentaux, cette fois-ci, qu'on pense assez rarement, qui va se créer dans l'après-guerre et dans l'entre-deux-guerres, notamment grâce au travers du témoignage du coup de Hervé Guillemin, qui en fait un de ses sujets de recherche privilégiés. On a aussi une deuxième conférence, qui est plutôt une table ronde, qui va être animée par un élève, Tony Poulard, qui va traiter des lieux d'hygiène mayennais, avec la participation de plusieurs intervenants, avec d'abord Stéphane Ilan, qui travaille à la ville de Laval, Nathalie Oudroin-Lecomte, qui est médiatrice au musée de Jublin, qui va traiter donc dans l'Antiquité, et Gilbert Guyard, qui est membre de l'association Patrimoine en Partage, qui va notamment parler des bateaux lavoirs mayennais et lavallois, qui sont un patrimoine assez unique en France et dans le monde.
Il y aura également des ateliers participatifs comme la généalogie ou des animations pour enfants pour enrichir justement l'expérience du public. Et ça, c'est intéressant. Tous les publics sont conviés à cette fête de l'histoire.
Oui, on va vous proposer 4 ateliers. Donc 2 ateliers portant sur la généalogie. Donc le premier intitulé « L'ADN au secours du généalogiste » où ces 2 généalogistes, Jean-René Ladurée qui est directeur du LUCO Laval et son collègue David Audibert qui vous initieront et vous feront participer à la science de la généalogie grâce à des échantillons d'ADN. Le deuxième, confectionné par les étudiants et en partenariat avec les archives départementales, où là c'est un atelier 100% personnalisé, ludique et intuitif. Pour expérimenter plus en profondeur vos racines. Un troisième atelier sur le beau patrimoine mayennais créé spécialement pour l'occasion, avec des étudiants qui vous guideront et vous proposeront de vous challenger sur la reconnaissance de différents monuments du patrimoine mayennais. Et on n'a pas oublié les enfants qui sont conviés et on les embarquera pour une traversée de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge avec la confection de différents objets comme des épées, des couronnes et des armoiries personnalisées.
Et alors, il y a aussi une exposition qui s'intitule « La folle histoire » en partenariat justement avec le musée d'art naïf et singulier de Laval. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette exposition, votre travail de sélection des œuvres, peut-être Léni ?
Alors effectivement, on a créé grâce aux Manas et les Microfolies avec une disposition particulière de plusieurs œuvres qui sont présentes partout en France, qu'on a imprimées et qu'on va vous montrer, avec une petite exposition pour montrer différents principes de la folie. Alors on a différentes folies, la folie médicale, on a la folie humaine, on a la folie à l'œuvre dans les actions humaines, ces différents regards qu'on va pouvoir porter sur la folie, ce qu'elle représente à notre idée, mais aussi dans la réalité et dans l'histoire.
Et alors, sur cet événement-là, pardon, que l'on évoque, donc le 30 mars, la fête de l'histoire, c'est vous qui organisez, mais alors vous avez aussi des partenaires, il y a 13 associations locales qui seront présentes. C'est important pour vous, justement, de faire du lien aussi avec toutes ces structures, toutes ces associations déjà présentes sur le territoire.
Alors maintenant, il y a à peu près une vingtaine d'associations qui ont répondu présents. Mmh. Et oui, effectivement, on a différents partenaires aussi. Donc on est en partenariat donc, avec le Manas, comme le disait Léni précédemment, mais aussi avec les archives départementales, donc dans le cadre de l'atelier de recherche généalogique, mais aussi avec le service patrimoine de la ville de Laval. Et donc tous ces partenaires nous ont fortement aidés dans la conception de cet événement qui est la fête de l'histoire.
On vient d'évoquer cette fête de l'histoire qui a lieu le 30 mars, mais il y a un rendez-vous qui a lieu demain, c'est le 26 mars, il s'agit des nocturnes. Alors, à Laval, c'est une nocturne qui est organisée, mais c'est un événement national. Quelle est la particularité de cette soirée ? Qu'est-ce qu'on pourra y vivre ?
Eh bien, les nocturnes de l'histoire, personnellement, sur l'UCO Laval, c'est la première fois qu'on organise cela. Donc, c'est un événement qui est organisé, donc c'est un label qui est organisé, comme tu l'as dit, dans toute la France depuis 2021 et organisé donc par les 4 sociétés d'historiens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, l'objectif visé de cet événement, c'est de promouvoir une diffusion large du savoir historique en valorisant notamment différentes manifestations ou événements présents sur le territoire. Donc à Laval, il y aura donc les Nocturnes de l'Histoire donc présents sur le campus de EC53 de l'UCO Laval. Et ça fera partie cet événement fera partie des 3 événements qui sont organisés en région Pays de la Loire.
Alors quels sont les horaires ? Comment est-ce qu'on s'y rend ? Cette nocturne aborde aussi le thème de la folie.
Oui, exactement. Oui, c'est sur le thème principal est la folie. Et donc, ça sera donc dans la soirée du mercredi 26 mars de 18h jusqu'à 22h. Donc, c'est totalement gratuit et accessible au grand nombre. Et il y aura notamment aussi la conférence qui sera signée en LSF.
Ça qui est intéressant, c'est que je me dis, en construisant cet événement, ça a été aussi important pour vous de le penser accessible à tous.
Oui, effectivement. Bah, après, c'est accessible à tous, oui, mais il faut quand même être un petit peu assez averti pour pouvoir comprendre les différentes problématiques liées donc, au thème de la folie. Mais oui, on vous invite néanmoins tout de même à venir découvrir donc, cette exposition autour de la folie histoire. Il y aura aussi un jeu interactif intitulé de la folie et des jeux, donc, qui est aussi... qui a été aussi créé par les étudiants de troisième année de licence d'histoire. Et donc là, le cœur de la soirée qui est la conférence intitulée « Rome, berceau historique de la psychiatrie », donc avec l'intervenant Pierre-Henri Ortiz, donc, qui est maître de conférence à l'Université d'Angers et chercheur au Thémos CNRS.
Donc une riche programmation également. Vous êtes 22 étudiants dans la promo Gaïa. Comment s'est passée cette organisation, puisque on voit qu'elle est cette organisation est finement menée, je pense si on peut le dire comme ça. Vous avez chacun un rôle précis. Comment vous avez mené tout ça tous ensemble?
Alors effectivement, c'est une organisation qui est de long terme avec beaucoup de personnes. Ça fait depuis la rentrée qu'on travaille sur ce projet avec différents groupes de travail sur des notions particulières, organisationnelles, aussi intellectuelles, pour construire littéralement le projet des Nocturnes et des Fêtes de l'Histoire. Alors plus récemment, on a aussi travaillé sur l'organisation purement logistique, l'installation et la préparation, les différents rôles qu'on va avoir au niveau des journées, parce qu'il n'y a que les étudiants qui vont mettre en place directement les fêtes de l'histoire et les nocturnes de l'histoire. Et finalement, peut-être vous pouvez dire chacun ce que vous avez fait rapidement. Mmh. Moi, c'est un cas un petit peu particulier. J'étais en séjour universitaire à l'étranger pendant la moitié du temps, donc je n'ai pas trop participé. Mais Ronan et Julie ont un peu plus participé.
On était plus, moi et Julie, au niveau de la communication. Donc, moi, personnellement, plus à destination des médias. Donc, la prise de contact, aussi le fait d'organiser des rendez-vous, donc justement pour communiquer sur ces événements.
Et moi, j'ai fait une page internet disponible sur le site de l'UCO dans les onglets actualités, où vous pourrez retrouver tout le déroulé de ces deux événements.
Qu'est-ce que ça vous a apporté peut-être justement de créer un événement comme celui-ci, de se mettre en lien aussi avec toutes ces structures locales qui sont aussi en lien avec votre parcours universitaire?
Apprendre à concevoir un projet, apprendre à collaborer et à travailler en équipe. Et puis avoir des partenaires, comment inviter les gens à aussi la communication aussi, comment faire diffuser cet événement pour inviter le plus de gens.
En regardant l'ensemble de cette programmation, que ce soit pour la fête de l'histoire qui a lieu le 30 mars ou les Nocturnes de l'Histoire qui a lieu cette soirée à Laval le 26 mars, donc demain, j'imagine aussi que ça nous permet de changer notre regard sur l'histoire locale. On n'imagine pas à quel point la Mayenne est aussi riche en fait de toute cette histoire.
Effectivement, oui, comme tu le dis exactement, le territoire mayennais est riche en patrimoine, que ce soit au niveau culturel, mais aussi artistique. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir en Mayenne. Et justement, nous, on a vraiment voulu promouvoir ce territoire mayennais à travers ces deux événements, en invitant donc différents partenaires, en invitant différentes organisations présentes en Mayenne, mais aussi d'agents, de personnes extérieures à la Mayenne, mais qui peuvent aussi apporter forcément un complément très 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 intéressant.
Alors, on l'a dit, ces deux événements sont gratuits. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver en amont, par contre, si on veut se rendre que ce soit à la fête de l'histoire ou au Nocturne demain soir?
Alors non, il ne faut pas du tout réserver, vous pouvez venir à n'importe quelle heure pour participer à n'importe quel événement, c'est totalement libre. Mm-hmm. Tout le monde peut venir, repartir, profiter, repartir, comme vous voulez, c'est libre.
Et donc c'est directement à l'UCO de Laval. Merci beaucoup à tous les trois, Julie, Léni et Ronan, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation.
Alors avant de retrouver le deuxième épisode de notre reportage sur l'étude de l'INRS auprès des aides-soignants à Laval, on écoute Mickey. La chanson s'appelle Échec et Mat. Elle est d'ailleurs à l'affiche du festival Un singe en été cette année. Écoutez.
Ah. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas passer mes sons. En même temps, j'aurais fait la même devant une meuf qui est aminée, pâteuse, pétasse, qui lui parle comme un moniteur de camp de vacances. Genre qu'avec des geekos, des dilos. Car je kiffe les mecs qui sont pas que des tamis. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes antivomitifs. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Les gens qui boivent des bubble tea me dégoûtent. J'en fais partie. Au rayon mélancolie, je mets des kidrama même si ça me gêne. Je kiffe les courses et qui draguent même si ça me gêne. Je laisse les traces de transpi sur la selle. Ça me gêne et en même temps je trouve ça sexy. Comme une cravate au bout du cou, des cratères sur les genoux. Le revers de ma jupe raccourci pour toi. Pour faire passer le temps, chercher des stages au pif. Copiant, collant les lettres de motivation. Attends, attends, laisse-moi faire encore un pâté de maison. Juste pour écouter un dernier son. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis, on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Tu sais, je peux me forcer à écrire un truc qui te touche. Même si tu sais que si je veux, j'accouche. Tu changes de visage comme de caleçon. Un jour c'est bon, un jour t'es con. Comme quand t'aimes plaquer ma tête contre la plaque de la cuisinière. J'aimais l'idée que c'était pour me tenir chaud. Parce que sans toi j'ai froid. Sans toi je suis rien, un guérisseur. Qui se rend que j'ai guéri seul. Je suis paumé comme la pomme pote au fond du frigo. Que personne n'ose plus toucher ni jeter. Car j'en vaux peut-être encore la peine. J'ai peut-être encore du potentiel. Moi j'y ai cru en tout cas. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. À deux doigts d'un échec et mat, mat, mat. Moi ça. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. Et puis on contre-attaque. Échec, échec, échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait.
Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Après les regards d'experts, place à celles qui vivent cette réalité chaque jour. Dans ce deuxième épisode, on pousse la porte d'un EHPAD pour écouter les voix des soignantes, pour celles qui apprennent à préserver leur propre corps. Et c'est la suite de notre reportage sur l'étude de l'INRS menée à Laval. Après les épidémiologistes venus observer, place à celles qui vivent ces gestes au quotidien. Elles sont aides-soignantes en EHPAD et depuis leur formation à l'approche accompagner la mobilité, elles regardent leur métier un peu autrement. Moins de douleur, plus d'écoute du corps, du leur et de celui des résidents. On rencontre Mallory Lemoine, aide-soignante au Faubourg Saint-Vénérand, ainsi que Léa Bruère, aide-soignante au Verger de Jeanne. Alors avant cette formation, comment est-ce que vous faisiez pour aider les résidents dans leurs déplacements ?
Eh bien, comment on faisait, c'est que dans la réalité du travail, on essayait toujours d'aller faire au plus vite et on se mettait à deux soignants, parfois toute seule, et on allait essayer de faire les gestes de la personne nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on allait porter la personne, on allait la remonter seule dans le lit, on allait faire beaucoup de choses qui, au final, depuis la formation, on se rend compte que c'était un peu inutile parce que la personne elle-même peut faire beaucoup toute seule en approfondissant les choses. On a du matériel, on a la chance justement sur le CH en plus d'avoir beaucoup de matériel, on a des draps de lisse, on a des lève-personnes, des verticalisateurs que l'on utilisait trop peu et qu'à l'heure d'aujourd'hui on utilise et on le ressent sur la fin de la journée.
Justement, vous parliez des douleurs que vous ressentiez avant liées à la manutention des patients. C'était à quel point au quotidien, justement, ces douleurs physiques ?
Récurrent, voire quasiment tous les jours, en fin de journée. Voilà, une fois que j'étais plus à chaud, les douleurs arrivaient. Moi, c'était les poignets, les doigts, les épaules.
Moi, c'était quasiment tous les jours en fin de journée. C'était le bas du dos. J'avais des lombalgies chroniques. Et c'est vrai que ça arrivait où tous les 4-5 mois, j'avais une semaine d'arrêt parce que les douleurs étaient trop insupportables et j'avais du mal à travailler sereinement.
Donc moi, je suis Aurélie Landais, je suis conseillère en prévention des risques professionnels et je suis formateur de formateurs PRAP2S sur le CH.
Alors comment se déroule la formation et l'accompagnement à la mobilité ?
Alors la formation, elle est organisée sur 4 jours. On répond en fait au référentiel de l'INRS, donc de la formation PRAP2S. On l'organise sur 3 jours et un jour en fait à une semaine. On partage des compétences, les professionnels retournent dans leur service, ils essayent de mettre en place les choses, ils reviennent après avec des questions. La force vraiment du CH Laval, c'est qu'on anime un réseau interne de formateurs et qu'on a vraiment les compétences en interne. C'est vivant. C'est ce qui fait vraiment la force du dispositif. Je suis d'autant plus convaincue par le déploiement du dispositif et partager le message qu'on peut faire le travail de soignant sans se faire mal. Aujourd'hui, enfin, c'est surtout ça. On peut prendre soin de l'autre en prenant soin de soi.
Et alors, quel est le retour peut-être du côté des résidents? Et il a été également mentionné des familles. Les familles également vous font des retours.
Il suffit de leur expliquer à quoi ça sert, parce que bah, parfois, eux-mêmes, ça leur fait peur de nous voir arriver avec ça dans la chambre. Et au final, ils finissent par comprendre que voilà, c'est vraiment pour le bien-être de la personne, pour nous, ne pas nous faire mal à la portée et ne pas prendre le risque de faire mal à la personne également. Et ben au final, non, ça se passe bien. Et eux-mêmes, ils préfèrent, parce que du coup, ils s'y sentent en sécurité.
Est-ce que c'est du matériel qui était déjà présent dans les structures, ou est-ce que c'est du matériel qui a été ajouté à ce qui existait déjà?
Alors oui, il y avait déjà du matériel avant, mais pas sous une autre forme.
Il y a la chaise riser qu'on n'avait pas dans les débuts, que je connaissais pas du tout. La chaise riser, donc c'est une chaise qui est entièrement démontable, que justement on va commencer à monter une fois que la personne va être à terre. Donc la personne va être sur le dos et c'est un ensemble de pièces qu'on va raccrocher les unes avec les autres et ça va permettre à l'aide d'une télécommande de remettre la personne quasiment à la verticale, ouais, en demi-assise, et la personne, une fois qu'elle est tout en haut de la chaise, si elle a appui, ça lui permet de se remettre debout et nous de pas nous faire mal à essayer de la porter.
Vous parliez de la transmission finalement de ce que vous apprenez lors de ces formations. Est-ce qu'il y a des résistances, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes, ou est-ce que finalement tout le monde adhère plutôt globalement?
Au début, c'était un petit peu compliqué parce que quand on est dans la routine, sur le service, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux et chez les plus jeunes, ça passe davantage parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience et la routine dans les services. Donc c'est plus facile pour nous de leur apprendre les bonnes pratiques. Maintenant.
Oui, et pour terminer, finalement, en fait, la particularité, c'est qu'on sent réellement que vous étiez déjà sur le terrain, donc vous transmettez des choses qui ne sont pas en décalage par rapport aux réalités du métier.
C'est vraiment un dispositif, on parle à des pairs. Léa ne l'a peut-être pas dit, mais elle a fait la formation d'acteur et elle est actuellement en formation de formateur. Donc ça, elle ne l'avait pas dit. Et vraiment, la force, et moi, c'est ce que je leur dis, c'est que quand vous êtes en formation, quand vous animez une formation, vous parlez à des collègues. Vous parlez à des collègues qui font le même métier que vous, qui ont des difficultés différentes, avec parfois des bâtiments qui sont différents, mais au final, on parle de la même chose. Et l'idée, c'est vraiment de prendre soin des résidents sans se faire mal et de continuer à faire son travail le plus longtemps possible.
Moins de douleur, plus d'attention, une autre manière de faire corps avec le soin. Pour ces soignantes, l'approche aide à la mobilité n'est pas une méthode de plus. C'est une manière de durer dans un métier exigeant et peut-être aussi de s'y sentir mieux. La prévention ici ne s'impose pas d'en haut, elle se construit à hauteur d'humain. La JT du local se termine en beauté, mais elle termine surtout avec Donatien.
S'il est un mot qui plaît à Donatien, c'est le mot « vague ». Pourtant, Donatien adore la précision du vocabulaire, le mot juste pour exprimer les choses, les sentiments, les perceptions. Il aime qu'on nomme un chat, et feuilleter le dictionnaire lui procure un plaisir que n'égale pas, et de loin, le recours au Wikidictionnaire et à Google. Vague, disait-on, en voilà un joli mot. Attention, on ne parle pas ici de l'adjectif particulièrement insignifiant, comme un vague souvenir qui déclenche un vague sourire ou de vagues propos qui ne mènent qu'à une vague confusion. Donatien aime le substantif, le nom qui se décline au masculin comme au féminin avec un sens différent. Les vagues de la mer, une vague humaine, une vague de froid, une vague d'oubli, une vague nouvelle au cinéma qu'on appelait nouvelle vague à l'époque de Jean-Luc Godard, et par-dessus tout, les vagues de la longue chevelure d'Ariane qui ondule sur ses épaules. Voilà pour le féminin. Au masculin, Donatien ne retient que le vague à l'âme, cette mélancolie infinie et indéfinie, le vague des passions chères aux romantiques, et ainsi le vague au masculin nous ramène à l'agitation des flots, au mouvement perpétuel de l'océan qui se couche à nos pieds, symbolisant si bien et avec duplicité les plaisirs et le danger. Sur l'île d'Ouessant, où les marins sont conscients du danger, il en est un qui a su apaiser la tempête de par la seule prononciation de son nom. Il a choisi d'adopter une graphie particulière en dessinant un tilde ou un tildé sur son prénom, un signe résumant à lui seul le vague et la vague, apaisant les esprits. Aux yeux de Donatien, ce tilde qui déclencha de façon aussi disproportionnée que ridicule une procédure judiciaire de la part du ministère public, finalement a eu gain de cause devant la cour d'appel du tribunal d'Angers. Fanch est sauvé avec son tilde sur le N. Le tilde, c'est une petite vague sur la lettre en forme de S couché qu'on trouve sur la touche en haut à gauche du clavier. C'est une petite vague qui rassure dans le Finistère quand s'élève la voix de Jan Fanch Kemener, une petite vague qui calme la fureur des vents et vous laisse à l'âme un vague qui transporte le plus cartésien des terriens au pays des marins bretons où se finit la terre.
Là, tu me mets évidemment. Tu connais pas? Jan Fanch Kemener.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Ronan, Julie et Lénie d'avoir été à notre micro. Merci à Donatien et merci à toi, Maxime. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ce soir sur l'autre radio?
On commence la soirée en musique à 19h avec Au Catering. Au menu, des chansons calmes ou presque. L'étude du jour sur le coût des produits culturels et la playlist de Charles III.
Et ensuite?
La soirée continue à 21h avec Frères de chaussures, une émission de rap proposée par Chap Fatshu.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. D'ici là, laissez le mardi trouver sa place, quelque part entre l'élan et le calme à venir. Et s'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.